épisode 51 du podcast Aliments Passion. Aujourd'hui, je vous parle de cocktail pris au restaurant Le Shaker de Saint-Hyacinthe, d'un souper au restaurant Le Shaker à Saint-Hyacinthe, ainsi que de bières acidulées du Québec. Et c'est parti! Salut à toi, le foodie. Bienvenue au podcast Aliments Passion. Ici Roger, votre crazy chef. N'oublie pas d'aller liker nos pages de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Vous allez avoir les photos de tout ce que je vais te parler aujourd'hui, ainsi que là, toujours les derniers détails quant au podcast. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du restaurant Le Shaker à Saint-Hyacinthe. Le Shaker est une nouvelle bannière de restaurant au Québec. Il y en a maintenant plusieurs. Les premières succursales ont été ouvertes à Montréal. Il y en a maintenant plusieurs dans plusieurs régions du Québec. Là, je m'en suis rendu compte après avoir déjà fait la réservation. Là, je ne savais pas que c'était une chaîne qui avait plusieurs adresses. Donc, on va vous parler de l'adresse de Saint-Hyacinthe. Dans le premier bloc, je vais vous parler des cocktails. Et ensuite, au deuxième bloc de notre souper. Donc, pour commencer le premier bloc, je vais vous parler des cocktails. Les cocktails sont servis dans des pots maçons, comme c'est donc la mode présentement depuis quelques années. Et c'est des cocktails de 500 ml qui sont à 9,99 $, sauf pour un que je vais vous parler, qui est dans la catégorie terroir, qui utilise des produits un petit peu plus pointus, qui sont à 10,99 $. Ils ont d'autres formats, mais on y a été puisqu'on voulait en prendre plusieurs et quand même respecter les limites d'alcool pour pouvoir sortir du restaurant en toute quiétude. Mais on y a été avec les plus petits formats. Donc, le premier cocktail dont je vais vous parler, c'est le Bloody Crown, qui est une version un peu plus travaillée, un peu plus moderne du Bloody Caesar. C'est un cocktail fait avec du whisky Crown Royal, de la tequila José Cuervo, du Clamato, la sauce piquante Firebarns, rhum et chipotle, du jus de cornichon, ainsi que le rebord a été fait. On est habitué d'avoir du sel de céleri ou des épices pour le Bloody Caesar. Ben, eux ont utilisé leurs propres épices, le Shaker. Un cocktail super intéressant, une belle saveur de whisky. La tequila était quand même très présente. J'avais déjà eu un voisin mexicain qui nous avait fait une dégustation de tequila un peu plus fine que les tequilas pas chers qu'on prend en shooter qu'on a connu quand on était un peu plus jeune. Donc des tequilas un peu plus travaillés, et puis il m'avait déjà expliqué le pairing naturel à faire entre la tequila et le jus à base de tomate, donc aller chercher cette espèce d'acidité fraîche là. Donc, j'ai retrouvé ce mélange-là que je comprenais et que je trouvais très intéressant. Beaucoup de saveurs, beaucoup plus évoluées que ce qu'on a habituellement dans un Bloody Caesar. Donc, le côté tomaté, évidemment, était bien présent. Le pairing avec le whisky et la tequila aurait pu surprendre. Probablement que si je n'avais pas déjà été mis au courant et déjà goûté l'espèce de mélange entre la tequila et le jus de tomate, m'aurait probablement fait peur. Là, vu que j'avais un petit peu cette base-là, j'ai peut-être été un peu plus aventureux, parce que je ne sais pas honnêtement si j'aurais pas eu cette donne-là, si je l'aurais essayé. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, le whisky canadien Crown Royal, la tequila, la sauce épicée, rhum et chipotle, dont je pense que je vous ai déjà parlé, des sauces Firebarns. Quand même une sauce qui n'est pas particulièrement forte, donc c'était très clair. Le jus de cornichon amenait vraiment une espèce de lien envers tout ça qui était super intéressant. Donc, une saveur de cornichon, les saveurs de tequila qui ressortent, la tomate. La seule chose que j'ai trouvé malheureusement un peu décevant, c'est que je comprends que c'est ce genre de place où ils mettent beaucoup de glace dans les cocktails pour les mélanger puis les servir. Je comprends pour les cocktails qui sont un peu plus forts, un peu plus fruités. On veut avoir que ces saveurs-là soient légèrement diluées puis que ça va aller avec la glace. Par contre, pour un drink à base de tomate, c'est peut-être pas aussi avantageux d'avoir autant de glace, d'avoir un produit qui va se diluer beaucoup plus vite. Donc, c'est peut-être ce qui a été au niveau, est-ce que c'est au niveau de l'exécution, c'est vraiment la façon dont ils veulent le servir. Je pense qu'en général, ça aurait peut-être été un drink qui aurait été plus agréable parce que c'était bien le fun au début, mais là, évidemment, la seconde que la glace se met à fondre, le drink se dilue, puis là, avec l'effet de tomate diluée, je trouvais que c'était moins cool. Mais sinon, là, les premières gorgées ont été super intéressantes. J'ai vraiment pu goûter qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, le Bloody Ground avec whisky, tequila, clamato, la sauce Fireburns, jus de cornichon et les épices là, du shaker. Un produit super intéressant. On y va là, avec un 3.75 sur 5. Le deuxième cocktail est le Frezilo. Frezilo là, qui est un cocktail fait à base de Smirnoff Orange, de purée de fraises, de jus de citron et de club soda. Un cocktail extrêmement frais. On sent très bien la fraise. Quelque chose de très léger, pas trop sucré, un très beau contrôle avec l'acidité. C'est un des cocktails là, qui était dans le côté terroir. On a vraiment une belle fraîcheur. C'est vraiment, là, je comprends, un cocktail d'été ou un cocktail d'apéro parfait. Un très beau contrôle là, de fraises fraîches avec des éléments pour le mettre en valeur sans là, y aller avec trop la petite pointe d'orange, de la vodka. Évidemment, fraise orange, un mariage qui se fait quand même très bien. Un super beau mix, quelque chose de très intéressant. On va y aller là, avec un 3.5 cocktail là, qui est quand même assez simple, mais qui a été très bien exécuté. Un beau balan là, dans le côté un peu acidulé, un peu sucré, l'alcool. Parfait. Donc, il va avec un 3.5 pour le Frezilo. Ensuite, le prochain cocktail, le Mary Cranberry. C'est un cocktail là, qui est fait à base de vodka Smirnoff à l'orange, de peach schnapp, du champagne, un thé glacé à la pêche et du jus de canneberge rouge. Un cocktail qui est très, très, très là, forté sur le fruit rouge, qui est à la limite du punch de Noël, un petit peu à la limite aussi là, d'être un cocktail trop sucré. Évidemment, un cocktail, tu vas avoir un très bel équilibre entre le sucré, l'acidité et le côté fort de l'alcool. Là, ça pesait énormément là, vers le sucre. On voyait un cocktail qui allait un peu plus là, du côté bonbon. Sinon, le reste était quand même bien balancé, mais le sucre venait quand même était à la limite d'être trop fort. Bon, peut-être que ça, c'est peut-être juste moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Pas le plus grand amateur de sucre au monde. Peut-être si vous êtes un peu plus bébé à sucre, ça va être un peu plus votre genre. Mais sinon, là, c'est peut-être moins un cocktail à prendre pendant un repas encore là. C'est peut-être un cocktail de fin de soirée qu'on prend tranquillement et qu'on jase. Parce que le sucre est quand même assez fort. Je vois même le mal, l'espèce de pairing que je pourrais avoir là, avec un repas. Donc, pour le Mary Cranberry, là, on y va avec un 3.25 sur 5. Le prochain cocktail est le Tropical Twist. Un cocktail là, fait à base là, de vodka Kettle One là, à la pêche et à l'orange. Avec la vodka Blossom, du Southern Comfort, de la chartreuse, de la purée de pêche. Ainsi là, que tu jus de canneberge rouge. Une pointe d'amertume, du fruit frais, ça allait un petit peu partout. Là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, tropical, un peu plus. Les saveurs allaient un peu partout. C'était pas hautement désagréable, mais j'avais l'impression qu'on avait essayé d'en faire trop, qu'il y avait trop de saveurs, qu'on a essayé là, de rentrer de force là, à grands coups de crowbar là, dans le cocktail. Je pense qu'il aurait peut-être pu enlever un certain élément de saveur, puis on aurait peut-être eu là, un peu plus l'idée générale du cocktail qu'il voulait faire. Quand même quelque chose d'agréable, bon, c'était simple. La petite pointe d'amertume, on a cherché un côté quand même différent. Le côté de fruits très frais, c'était très le fun, ça. Ça avait vraiment la purée. On voit qu'ils travaillent vraiment avec des produits de qualité. Donc, ça amenait vraiment ça. Par contre, là, j'avais l'impression là, que l'équilibre des saveurs du cocktail était un peu mélangeant. Donc, on y va avec un 3.5 sur 5 sur le Tropical Twist. Et on y va maintenant avec le dernier cocktail qui était le Pineapple Punch. Le Pineapple Punch est fait avec du rhum Captain Morgan épicé, de l'absinthe Balzac, du jus d'ananas, du jus de goyave, ainsi que du sirop de fruits de la passion. Ça a été mon coup de cœur de la journée, de la soirée, en fait, quand on est sorti. On l'a pris deux fois, d'ailleurs, je vais vous en parler exactement de ce qui est arrivé là, dans le prochain bloc. Un cocktail là, vraiment là, légèrement fruité, légèrement anisé, très frais, quelque chose là, de vraiment super bien balancé. C'était là, de loin là, un des meilleurs cocktails là, que j'ai pris vraiment depuis longtemps. Particulièrement le premier, on l'a pris comme je vous ai dit deux fois. Le deuxième, là, je ne sais pas si c'était fait par quelqu'un là, qui avait moins le tour ou bien s'il y en a un qui avait triché sur la recette. Mais la pointe anisée là, de l'absinthe amenait quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça venait vraiment chercher les petites saveurs sucrées, tropicales là, qu'il y avait avec l'ananas. Vraiment là, un équilibre de saveurs, un équilibre de, comme je l'ai dit, au niveau des textures, du fort, du sucré, de l'acidité. Vraiment, là, c'était vraiment un cocktail sans faute. Vraiment beaucoup aimé ça. Le Pineapple Punch, tant qu'à moi, là, était là, le clou de la soirée. Quant au cocktail du Shaker à Saint-Hyacinthe, j'y vais avec un gros 5 sur 5. Oui, oui, monsieur, madame. C'est plus rare que ça arrive, mais là, vraiment, là, après quelques gorgées, là, j'avais absolument rien à dire. Là. Tout était là. C'était vraiment super bien fait. L'exécution, la fraîcheur, comme je vous dis, les saveurs. De loin, là, mon favori là, des cocktails qu'on a pris là-bas, le Pineapple Punch. C'est ce qui complète le premier bloc avec les cocktails. On s'en va au souper au deuxième bloc. Donc, pour les repas du restaurant Le Shaker à Saint-Hyacinthe, on va commencer là, avec les entrées. La première entrée qu'on a pris sont les pogo de homard. Les pogo de homard sont servis avec une petite salade d'accompagnement et mayonnaise signature Le Shaker. Une entrée à 16,99$. Donc vous allez voir sur la photo, là, c'était comme trois pogo là, un peu plus là, évidemment en boule, servi avec la sauce en dessous, la petite salade à côté. Une entrée super intéressante, beaucoup aimé ça, superbe, délicieux, une texture vraiment onctueuse, bien exécutée. La saveur de homard était là, était franche, là, j'avais pas l'impression là, que c'était du vieux homard ou quelque chose. Vraiment, on travaillait bien à ce niveau-là. Un très bel équilibre là, au niveau du sweet, du piquant. Le gras là, de la panure était très bien travaillé. Le piquant de la mayonnaise assaisonnée venait vraiment tout ramasser. Des très belles saveurs. La petite salade d'accompagnement là, de roquette et tomate avec une légère vinaigrette acidulée. C'était vraiment parfait. Ça venait donner là, le contrebalan justement du gras et du piquant qu'il y avait dans la bouchée de pogo de homard. Une très belle exécution. J'ai vraiment été resté surpris. Là, c'était vraiment comme une place un peu, évidemment, là, si on voudrait, là, brasserie un peu moderne, un peu plus dans le vent. Oui, je vais trahir mon âge, une place dans le vent. Ouais, OK. Donc, une place, là, justement, un peu plus au goût du jour là, au niveau des brasseries. C'est quand même des grandes places. Là, j'avais regardé vite, c'est comme il y a quand même un 200 places assises facilement. Nous, on avait réservé. Donc, évidemment, il y a du bruit. On a été un samedi soir qui était un match du Canadien. Donc, il y avait quand même beaucoup de va-et-vient. Mais vraiment, là, je ne m'attendais peut-être pas nécessairement à cette qualité là, d'entrée-là. J'ai vraiment été agréablement surpris. Comme je vous dis, la qualité fraîche du homard était vraiment là, la bouchée, une fois croquée dedans. Là, on avait ce côté onctueux-là là, du mélange avec le homard. Des belles saveurs. Comme je vous dis encore une fois, l'équilibre de l'assiette était vraiment intéressant. La mayonnaise assaisonnée, la fraîcheur de la petite salade à côté, tout avait été bien pensé, tout avait été bien exécuté. Une superbe entrée, là, vraiment, là, pour 16,99$. On parle quand même d'une entrée avec du homard. J'y vais avec un 4,75 sur 5. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être un petit peu plus de crispy au niveau de la pâte à pogo, là, si j'aurais vraiment pu y trouver quelque chose. Mais sinon, là, il n'y avait vraiment pas grand-chose à redire. Une superbe belle exécution pour le pogo de homard. Ensuite, on y va avec l'entrée d'oignons français, qui est bon, c'est tout simplement là, des onion rings maison. C'est fait là, avec une pâte à pogo à la bière, servie là, avec un coulis de miel pour 11,99$. Très, très bon onion ring. On sentait quelque chose de très, très frais, très bien exécuté. Le miel était vraiment bien fait pour aller avec la pâte. Ça rendait ça complètement cochon, le côté crispy levure là, de la pâte à la bière avec le sucré du miel. Super belle exécution, un beau crisp. La seule chose un petit peu négative que j'avais à dire, et c'est souvent le seul point négatif qu'il y a dans les onion rings, il aurait fallu que l'oignon soit un tantinet plus cuit. On a toujours cette affaire-là quand on mange un onion ring, surtout les onion rings frais comme ça, et puis que l'oignon vient et puis sort complètement de la rondelle. Fait qu'on se ramasse juste là, avec une rondelle de pâte. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir peut-être des rondelles qui sont coupées un petit peu plus fin, ou essayer d'avoir un moyen, peut-être une, pas nécessairement de précuisson, là, mais quelque chose qui va faire que l'oignon va cuire un peu plus, qui fait que justement, là, cet oignon-là là, va casser là, à la bouchée, puis qu'à la première bouchée, là, dans l'oignon ring, on va pas se ramasser avec une grosse bouchée d'oignon, puis une espèce de fer à cheval de pâte dans la main. C'est sûr que ça rend ça moins cool, mais c'est vraiment le seul point négatif, parce que sinon, comme je vous ai dit, la pâte était vraiment crispy. Le fait qu'ils mettent le coulis de miel, je sais que des fois, là, ça arrive qu'ils nous servent un onion ring, puis ils nous donnent une petite coupe de miel à côté. Là, de le mettre vraiment dessus, probablement, quand il était encore tout chaud, sorti de la friteuse, le miel est tout rentré dedans. La pâte est quand même restée croustillante. Puis là, c'était du miel chaud, complètement décadent là, avec l'oignon. C'était vraiment bon. Des beaux assaisonnements, très, très bien exécutés. L'oignon français, là, un entrée, 4 sur 5 pour 11,99$. Ensuite, on y va avec les plats principaux. Comme premier plat principal, on y a été avec l'assiette de côte levée. L'assiette de côte levée entière là, est à 33,99$. Les côtes de veau artisanales là, sont avec sauce barbecue maison, sont servies avec deux choix d'accompagnement. On y a été avec la salade verte ainsi que les frites de patates douces. Une viande de belle qualité. On voyait que c'était une viande très fraîche, une superbe tendreté, une belle qualité de porc. Là, c'était vraiment, là, ça, il n'y avait pas de. Rien à voir à ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Par contre, là, il y avait un manque flagrant d'épices et de sauce. C'était très fade. On avait beaucoup de misère. Là. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas. Quand ils ont fait cuire, la, ou du moins pré-cuire, s'ils font cuire en deux fois, évidemment, ils ne font pas cuire à la minute. Là, ça prend plusieurs heures, faire cuire des côtes levées bien tendres. J'avais l'impression que la viande avait été à la base cuite avec absolument aucun assaisonnement. Puis qu'ils ont juste mis de la sauce, le rendu au moment de chauffer pour le service. La viande, il y avait des gros morceaux, des gros coins de la côte levée qui n'avaient absolument aucun assaisonnement. S'il n'y avait pas de sauce, la viande était complètement fade en dessous. Aucun mélange d'épices, rien. Juste de la sauce. La sauce, il n'y en avait pas partout. Ça rendait ça vraiment malheureux. Puis même à ça, je trouvais que même quand on mangeait la viande avec la sauce, il manquait de l'assaisonnement. Il y a des saveurs qui devraient être rajoutées à cette viande-là. C'était un gros manquement. Là, il y avait, je veux bien croire là, quand tu manges des côtes levées, tu veux aussi mettre de l'avant le goût de la viande. Mais là, c'était presque jeu que ça. Là. Il en manquait. Il y a eu une faute probablement en quelque part. Ensuite, les assaisonnements. Ben, comme bien des places, là, c'était probablement là, des frites de patates douces là, qui n'étaient pas faites maison. Possiblement que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donnait. Quand même de belle qualité, soit à ce niveau-là, ça allait. Comme je vous dis, comme j'avais l'impression que c'était peut-être quelque chose, là, ça va aller. La petite salade verte, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, autant que j'avais apprécié la petite là, salade de roquettes et tomates là, avec le pogo, qui avait une petite vinaigrette acidulée là, qui semblait maison, très simple, très correct. La salade verte là, qui nous a amené là, avec l'assiette de côte levée, était clairement là, une vinaigrette du commerce. Là. Ça goûtait la vinaigrette italienne ou la vinaigrette grecque achetée en bouteille d'épicerie. Là, c'était complètement horrible. Une espèce de violente saveur d'oregano cheap. Là, c'était vraiment, vraiment pas agréable. Vraiment, là, je trouvais là, qu'il y avait un gros manquement là, dans cette assiette-là. D'abord, pour l'assaisonnement de la viande, tu peux pas avoir là, une viande là, qui est aussi populaire que ça, des côtes levées, puis manquer d'assaisonnement. Et ensuite, là, le côté extrêmement cheap, la vinaigrette qui nous est servie, alors qu'il n'y a absolument aucune raison, on avait déjà eu une salade. J'aurais très bien vécu avec le fait qu'ils nous remettaient le même type de vinaigrette pour la petite salade verte là, qu'il y avait avec le repas. Donc, malheureusement, là, on est obligé d'aller en bas de la note de passage. Beaucoup trop de manquements, là, manque d'assaisonnement, des frites achetées, une horrible, horrible, horrible vinaigrette du commerce là, dans... la salade verte. On y va avec un 2,75 sur 5. La viande était quand même extrêmement fraîche et de très bonne qualité. Il n'y avait aucun problème, mais il faut assaisonner ça de la viande. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ensuite, pour l'autre repas, on y était avec une poutine au porc effiloché. La poutine au porc effiloché est en vente là, à 17,99$. Une portion là, quand même assez généreuse. Là. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai une bonne fourchette, c'est pas un problème. Vraiment, là, c'était copieux, mais sans problème. Une des belles frites, une belle julienne, une sauce brune de qualité que je n'ai pas revue depuis je vous dirais probablement le premier épisode d'Aliment Passion où j'avais mangé là, à la microbrasserie là, Sir John à La Chute, où ils faisaient eux-mêmes leur sauce à base là, d'une de leurs bières, ainsi là, que des os de gibier qui traînaient là, de façon là, qui changeait dans le fond selon ce qu'il y avait sous la main. Une très belle sauce qui était un espèce de beau mélange de sauce brune, de jus de viande et de sauce barbecue. Très, très, très savoureux, extrêmement copieux. J'ai clairement vu, là, il y avait beaucoup de travail dans cette sauce-là. Ça fait évidemment une très grosse différence dans la poutine. Comme je vous dis, des très belles frites. Une très belle saveur là, de viande, de pulled pork. Encore une fois, la saveur de viande était là, la sauce était là. Il n'y avait pas un qui était trop fort, c'était pas trop sucré, c'était pas juste de la viande. Il y avait quand même des épices dedans. Tout avait été super bien fait. Un très beau pulled pork. Le seul petit point, un très beau fromage. Peut-être pas le meilleur fromage là, squick squick qu'on a vu. C'était déjà mieux là, que d'autres places que je vous ai parlé là, qui avaient probablement justement là, un forme de fromage de cheddar en grain qui n'était pas là. Le fromage en grain frais squick squick qu'on est habitué. Là, c'était peut-être pas la meilleure marque, la meilleure qualité, mais il y avait quand même là, une qualité de fromage là, qui valait vraiment la peine d'apprécier. Comme je vous dis, là, la grosse portion, là, comme il y a une petite moyenne grande, la grosse portion avec du pulled pork, c'est une assiette. Il faut être prêt à s'attacher à quelque chose. Vous êtes mieux d'avoir un bon appétit. Mais c'était mon cas et je me suis absolument régalé. Les frites, le fromage, l'incroyable sauce. Vraiment, là, on y va avec un 4.5 sur 5. Très, très, très bonne poutine. Là. C'est pas c'est facile là, de tomber dans le normal, mais là, vraiment, là, je trouvais là, qu'il avait sorti là, une très belle carte dans leur jeu. Excellente exécution pour la poutine au pulled pork du restaurant Le Shaker à Saint-Hyacinthe, 4.5 sur 5. Ensuite, ben oui, les desserts. Tant qu'à être au restaurant, on en profite. Alors, comme dessert, moi, j'y étais avec la barre Magnum Free. C'est la barre là, de crème glacée frite, panée aux biscuits Graham et céréales, servie avec des pacanes caramélisées, des biscuits Oreo concassés et un coulis sucré à vente là, à 9,99$. Quelque chose de très intéressant, quelque chose de frit, de frites simples, un croustillant très mince, pas gras. Le crumble d'Oreo amenait quelque chose de très le fun. Une boule de crème glacée là, on the side que j'ai peut-être trouvé par contre un peu inutile, peut-être à la limite nuisible. C'est déjà une barre de crème glacée frite. J'ai pas besoin d'avoir là, un side de crème glacée. Ça fait juste fondre dans mon assiette, enlever le croquant puis mouiller là, le crumble. Je pense que c'était à ce niveau-là peut-être un trop. Là. Des fois dans une assiette, là, il en manque. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y avait une note de trop. Comme je vous dis, c'est déjà une barre à la crème glacée. J'ai pas besoin de ravoir de la crème glacée en accompagnement dans mon assiette. Mais sinon, là, vraiment, au niveau de la pâte à frais, comme je vous ai dit, quelque chose de très simple, mince, croustillant. C'était vraiment le truc à avoir. On ne voulait pas avoir une pâte aussi épaisse comme ce qui aurait été des pogo. Ça aurait été complètement manqué. Donc, vraiment nice, crispy, pas gras. Le beau mélange avec l'Oreo, les garnitures, ça a été très bien pensé. Mis à part, comme je dis, la boule de glace en dessert que je me serais passé. Donc, un super beau dessert là, à 3.5 sur 5 pour la Magnum Free à 9,99$. Ensuite, on a été là, avec le brownie décadent. C'est le brownie qui tue. C'est servi là, sur une plaque chaude avec de la crème glacée à la vanille. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend l'extra crème alcoolisée à l'érable coureur des bois pour 5,99$ de plus. Ils chauffent là, la totale et vous font là, flamber ça à la table. C'était vraiment là, de un magnifique et de deux, là, oh là là, que c'était extrêmement décadent, tout simplement. Un brownie qui était très noir. Le mix là, de sortilège flambé et de coureur des bois donnait une espèce là, de caramel dulce de leche à l'érable. La glace vanille, dans ce cas-ci, là, venait adoucir le côté de tout ça. Ramenait là, une espèce de gras nécessaire pour manger avec le brownie puis l'alcool. Une super belle exécution. Un très beau visuel. Évidemment, là, ils font flamber ça carrément là, sur la table. Très belle exécution, un très beau travail aussi au niveau du personnel. Ça a quand même été un beau travail là, au niveau de tout le long de notre souper. Quand on est arrivé, là, je pense qu'on est arrivé un peu en même temps que tout le monde. Comme je vous dis, il y avait un match de hockey. On est venu prendre notre commande pour les premiers cocktails. Et ensuite, notre serveur est revenu nous voir pour nous informer que là, la cuisine s'était faite slammer, que tout le monde était rentré en même temps, que la cuisine en avait plein les oreilles. Donc, il était pour délayer un petit peu la prise de commande. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, de un, de le faire, et de deux, de nous le dire. C'est quelque chose qui aurait été quasiment impossible il y a un certain temps. On préférait là, ne de rien dire là, au client. Et puis, le client attendait une heure pour son entrée, puis il était mécontent. Là, je pense que comme n'importe quoi, on est tous humains. Si on nous le dit, si on nous explique, on nous met au courant, on va comprendre. Maintenant, ça peut vous plaire ou vous déplaire, mais ils ont été honnêtes et puis ils vous ont averti. Fait qu'après ça, c'était à vous de gérer avec cette information-là. Et aussi, le rendu au dessert, là, quand ils nous ont amené le brownies, ils nous donnent le brownies et c'était clairement une jeune commis là, qui commençait, qui vient nous voir et puis qui nous dit bon appétit. Puis là, on regarde, fait comme c'était pas supposé être flambé. Et elle nous regarde avec des yeux, là, pauvre jeune fille, là, clairement, là, un chevreuil, ça a 20 en pleine nuit. Elle dit ben, je sais pas, je suis nouvelle, là, je vais aller m'informer en arrière. Donc là, il y a un autre serveur là, qui est venu, et puis qui dit ce sera pas long, je vais m'en occuper. Donc, quand même, là, ça a été très facile là, de tout simplement de mentir ou bien de pas faire la bonne chose tout le long de la soirée, comme je vous dis. Là. Aussi, au niveau des cocktails, il nous est arrivé une chose bizarre. J'avais commandé un premier cocktail que j'ai fini là, avant celui de mon amoureuse. J'avais commandé là, un autre cocktail, le Mary Berry. Et on m'a apporté un cocktail. On m'annonce qu'on m'a apporté ce cocktail-là. Mon amoureuse a commandé un Pineapple Punch. Et il y a eu un mélange. Là. On m'a apporté un Pineapple Punch avant même qu'on en commande un. Les cocktails se sont mélangés là, de façon à ce qu'on ne comprenait absolument pas comment ça pouvait arriver. Ils nous ont amené le cocktail que mon amoureuse a commandé après que le mien soit arrivé. Donc, il est arrivé un mélange et un heureux mélange là, parce qu'il est quand même arrivé ce qu'on avait commandé, mais pas dans le bon ordre. Donc, c'était un peu bizarre, mais bon, encore là, le serveur est revenu nous voir et on dit « On est désolé, il y a eu une erreur, des papiers se sont mélangés. » Fait qu'il y a quand même eu un suivi. Ils n'ont pas fait semblant de rien. Fait que vraiment, oui, il y avait un très bel effort et un très beau suivi au niveau du service. Je pense qu'on sait qu'il manque de personnel partout et on a quand même fait là, attention de nous garder au courant. Donc, je pense que vraiment, là, au niveau du service, ça a vraiment été une belle expérience. Donc, des bonnes choses, comme je vous dis, avec les cocktails qu'on a pris ainsi que tout ce que je vous ai parlé là, ce soir. C'est environ là, une facture là, de 200$ plus pour boire. Donc, on a quand même pris là, beaucoup là, d'alcool là, et plusieurs cocktails différents, ainsi qu'un repas entrée-dessert. Donc, ça fait une différence, mais quand même une très belle sortie. Comme je vous dis, là, c'est une chaîne qui en a quand même plusieurs au Québec. Là, à travers le Québec, il y en a même quelques-uns qui vont ouvrir bientôt. Donc, allez sur leur site, voyez là, s'il y en a un près de chez vous. Sinon, ça vaut la peine de vous déplacer. Le brownie qui tue, je ne me rappelle plus si je l'avais dit. Comme je vous dis, le décadent avec le dessert et tout, 5 sur 5, là, facile. Ça a été là, un des beaux desserts là, que j'ai vu là, dans un restaurant dernièrement. Évidemment, l'aspect visuel avec le spectacle et le flambé en ajoute, mais sinon, les saveurs étaient tout à fait là, tout comme l'exécution. Alors, c'est ce qui complète là, le restaurant Le Shaker. On s'en va au troisième bloc. Pour le troisième bloc, je vais vous parler là, de bières acidulées. Des bières là, donc, qui sont légèrement sûres. C'est pas nécessairement, là, comme vous le savez, des bières que j'apprécie, un type de bière en fait que j'apprécie particulièrement. Mais une fois de temps en temps, quand j'en essaie, je réussis à en trouver là, une ici et là qui sort un petit peu du lot. Alors, je vais vous en parler de quelques-unes. La première s'appelle la Bohème de Paris. C'est de la microbrasserie Hopfenstark qui vient là, de la Valdrie. C'est une Farmhouse Ale, donc une grisette à 3,7% d'alcool. Une bière vraiment intéressante, quelque chose de très floral, avec une belle levure, une légèreté, quelque chose de très fruité, citronné, justement quelque chose de très léger, une bière qu'on trouve un petit peu partout. Là. On la trouve entre probablement là, dans les bannières petites frettes. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à la trouver dans la majorité des places. Sinon, là, on doit commencer à la trouver là, en épicerie. On commence à en parler un petit peu là, de cette bière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vraiment été un des petits coups de cœur au niveau des bières acidulées, donc à ce niveau-là, au niveau de la grisette, là, cette fois-ci. Très, très belle bière, comme je vous dis. Son côté floral, on goûte la levure, ce qui va vraiment faire. C'est une bière qui est quand même assez légère, à 3,7% d'alcool. Donc, une bière d'apéro là, qui va avec son petit côté acidulé qui va être super, super intéressant. Quelque chose de vraiment très bien dans la catégorie des bières acidulées, une que j'ai beaucoup aimée. On y va avec un 3.75 sur 6. Voyons, qu'est-ce que je dis là sur 6? 3.75 sur 5 pour la Bohème de Paris, la Farmhouse Ale Grisette de Hopfenstark de Lavaltrie. La deuxième bière que je vais vous parler est la Gauss sur mer IPA au citron et amarillo de la microbrasserie Le Naufrageur. C'est une sour traditionnelle Gauss à 5,5% d'alcool, ce que la microbrasserie Le Naufrageur de Carlton sur mer dit sur sa bière. Parce que c'est une bière d'inspiration allemande, la Gauss est une bière sûre et salée à base de blé. Nous vous présentons la version houblonnée de notre renommée Gauss sur mer. Une Gauss IPA qui se démarque par la touche tropicale des houblons, citra et amarillo qui lui apporte le côté aromatique et fruité des agrumes. Le goût de citronnet d'orange complètement à merveille l'acidité et la finale d'eau de mer de la baie des chaleurs. Une bière avec un superbe équilibre. J'ai beaucoup aimé là, le côté là, sucré, salé, houblon. Une des très rares Gauss là, que je rachèterais. Vraiment, là, ça a vraiment été là, au niveau de l'exécution. Si vous êtes un peu comme moi et que vous avez peut-être un peu... vous tripez pas sur les bières sûres, mais sur les Gauss, je vous dirais que c'est probablement là, avec son côté un peu houblonné, un peu IPA, vraiment, là, qui vient vraiment là, des côtés là, des houblons citra et amarillo qu'on revoit souvent dans plusieurs bières, vient vraiment faire un équilibre super intéressant. Encore une bière là, que je trouve qu'on peut trouver à l'épicerie ou dans plusieurs beer stores là, qu'il y a au Québec, là, peu importe là, celui que vous préférez dans votre région. Une bière là, à qui je donne 3.5 sur 5 là, sur la Gauss de Surmer IPA Citra Amarillo de la microbrasserie Le Naufrageur de Carlton-sur-Mer. Comme troisième bière, c'est une bière de microbrasserie que je n'achète pas assez souvent. C'est une bière de la microbrasserie Mont-Régius Bière Artisanale de Saint-Bruno de Montarville. À chaque fois, je suis énormément là, satisfait là, et je fais des belles découvertes avec leurs produits. Et j'en vois beaucoup partout et pour une raison que je ne comprends pas, j'en achète pas assez souvent. C'est donc là, la bière Acidula Pina Colada, une wheat beer sûre à 5% d'alcool. Comme je vous ai dit, là, de Mont-Régius, la bière artisanale de Saint-Bruno de Montarville. Une bière là, avec une superbe exécution. C'est à quelque part là, entre la pina colada et un genre de creamsicle à la mangue. Un espèce de goût très frais, fruité, légèrement acidulé. Une bière très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bière-là. Là, vraiment, là, tout dans cette bière-là et dans l'exécution. Comme je vous dis, l'espèce de mélange là, entre le cocktail pina colada et un creamsicle, là, vous rappelez là, l'espèce de popsicle là, orange avec la vanille, crème glacée à vanille, d'un mieux quand on était jeune, mais à la mangue, cette espèce de mélange-là est très bien fait. Le mélange des saveurs, ça rappelle des saveurs là, qui vont un peu là, qui vont tête à tête et qui ne se marient pas. Là, dans ce temps-ci, là, ça a été vraiment très bien fait. Presque, comme je vous dis, là, presque crémeux. Une très belle bière, une bière de blé. Le côté légèrement acidulé là, est très bien fait là, avec les fruits. J'ai adoré vraiment l'exécution de cette bière-là. C'est une bière là, qui a été prise là, au coin des Picoleurs, qui est un beer store là, dans à côté d'un dépanneur station-service là, à Boucherville. Vraiment là, top qualité, là, beaucoup, beaucoup de beaux produits. J'ai adoré cette bière-là. Vraiment, là, j'ai mis la main sur quelque chose de super intéressant. Donc, pour l'Acidula Pina Colada de Mont-Régius, bière artisanale de Saint-Bruno de Montarville. Je vais avec un 4 sur 5, quelque chose de très rare là, pour les bières acidulées en ce qui me concerne, mais là, vraiment, là, au niveau de l'exécution, vraiment, vraiment adoré cette bière-là. Et comme je vous dis, là, si vous avez une chance de mettre la main sur les produits de Mont-Régius là, de Saint-Bruno, ils font vraiment des superbes produits. Comme je vous dis, à chaque fois, je suis complètement emballé et il faut que je me mette à les acheter plus souvent. Et c'est clair que si je le fais, je vais vous en parler. Là, c'est des super belles bières. Vraiment, là, beaucoup, beaucoup de détails dans l'exécution, des belles saveurs. Une très belle microbrasserie qui se fait sur la rive sud en Montérégie. C'est ce qui complète le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. C'est ce qui complète l'épisode 51 pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner au podcast sur les plateformes de podcasts traditionnels les plus populaires, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. On est partout sur toutes les plateformes, iHeartRadio, Podbean, Balado Québec, peu importe où vous écoutez vos podcasts, on est là, là. Laissez-nous savoir si on n'est pas sur la plateforme que vous utilisez. On va tout faire pour être sur votre plateforme favorite. Inscrivez-vous, ça rentre directement là, dans votre appareil, dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi matin, quand vous allez en voiture, vous allez prendre votre marche, vous allez avoir toutes les suggestions foodie que vous avez besoin pour votre week-end. Ici Roger, le Crazy Chef, qui te rappelle, arrêtez de faire des recettes et cuisinez! Bye bye!